l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, en rediffusion à 18h. Aujourd'hui, on retrouve la Société archéologique du Finistère, son dynamique président, qui est médiéviste et qui aime faire découvrir au grand public la vie des Bretons au Moyen-Âge. La dernière fois, nous avions exploré les villes, un monde urbain finalement riche, même si au Moyen-Âge, on le sait, la majeure partie de la population vivait en zone rurale, pourrait-on dire. C'est peut-être même la difficulté du sujet, un peu trop foisonnant. En tout cas, on nous parlait, je me rappelle, dans les cours d'histoire, même à la petite école, des serfs, des fermiers, des métayers, de l'assolement triennal, même si l'époque concernée est pour moi devenue très floue. Peut-être que ce n'était déjà plus le Moyen-Âge, cette longue période qui va officiellement de la chute de l'Empire romain à la découverte de l'Amérique, près de 1000 ans. Bonjour Yves Coatigny.
Bonjour.
J'ai peut-être dit des bêtises, on va voir ça.
Jusque-là, ça va.
Bon, alors, quelle était la proportion déjà de population qui vivait hors de la ville au Moyen-Âge? Alors, ça n'a sans doute pas beaucoup bougé, en fait, dans l'ensemble du Moyen-Âge.
Alors, à la fin du Moyen-Âge, l'époque pour laquelle on a des chiffres, on est à 90% à peu près de ruraux, de gens qui vivent dans les campagnes, pour 10% d'urbains, et pour une raison très simple, les campagnes ne produisent que 10% d'excédents à peu près, et donc ces 10% d'excédents alimentent une population urbaine de 10%. Et au-delà, il y a une sorte de barrière qui est incontournable.
C'est ça, il faut rester à la campagne si on veut manger.
Exactement.
Voilà, et donc on peut supposer que ça n'a pas trop bougé, enfin qu'à la fin de l'Antiquité romaine c'était à peu près ça.
Alors c'est plus compliqué parce qu'à la fin de l'Antiquité romaine, l'emprise des villes s'est effondrée, à la fois leur pouvoir politique, leur surface, leur superficie, et on a quand même eu un phénomène de ruralisation de la société, et il faut attendre le milieu du Moyen-Âge, entre l'an 1000 et le 13e siècle, pour voir les villes repartir. Certaines ont assez bien tenu le coup, mais globalement quand même, à part Rennes, Nantes, Vannes, c'est plutôt un monde rural dans les 5 premiers siècles du Moyen-Âge. Et puis ensuite, on va petit à petit vers le développement urbain qui culmine pour le Moyen-Âge, bien sûr, au 15e siècle. Mais donc, globalement, c'est une population rurale sur toute la période.
Et sur toute la Bretagne et même la France, hein, on peut dire.
Oui,
c'est
voilà,
des chiffres qui sont valables.
C'est des chiffres qui sont valables pour l'Occident.
Ouais. Voilà, d'accord. Et alors, je suppose qu'il y a eu quand même une évolution des campagnes. Alors, est-ce qu'on peut faire une sorte de chronologie de la campagne de la fin de l'Antiquité romaine à la Renaissance?
Oui, alors il y a plusieurs phénomènes. Il y a tout d'abord un phénomène de christianisation des campagnes. Paysan, c'est la même racine que païen. Donc l'habitant des campagnes est païen. Et puis petit à petit, il se christianise et donc et on passe de l'Antiquité romaine à la société médiévale chrétienne. Ça, c'est le premier phénomène. Et il y a un second phénomène qui est que du fait du christianisme, l'esclavage disparaît. On ne peut pas être chrétien et esclavagiste. Et donc, on voit les statuts évoluer lentement, petit à petit, du servus, c'est-à-dire l'esclave à l'époque romaine, au serf, c'est-à-dire au paysan attaché à la terre. Alors, le paysan attaché à la terre, bon, il n'est pas attaché avec un pic et une chaîne, hein, soyons bien d'accord, mais il ne peut pas se déplacer librement. Il appartient à la terre et il appartient au seigneur, comme le bétail, comme les meubles. Et donc, il ne peut pas se marier librement, il ne peut pas hériter librement, il ne peut pas se déplacer librement. Donc, c'est un statut qui est quand même très dégradé. Mais le servage, petit à petit, là aussi, évolue parce que c'est pas très rentable, un serf. Le travail forcé, la corvée, donc qui est ce que doit le serf à son seigneur, n'est pas très rentable non plus. Il devait se passer quelque chose dans le monde médiéval concernant la corvée, comme dans l'ancienne Union soviétique, où l'on disait avec humour, je fais semblant de travailler, l'État fait semblant de me payer. La corvée, ça devait être à peu près la même chose. Là où le paysan se levait très tôt pour lui, il arrivait très tard à la corvée, ou là où il travaillait beaucoup pour lui, il travaillait sans doute beaucoup moins dans le cadre des corvées. Donc petit à petit...
Ah oui, parce qu'il y avait le lopin de terre personnel la terre collective.
Voilà, il y avait le lopin de terre personnel, donc il y avait le jardin, à peu près 5000 mètres carrés, la parcelle cultivée 5 hectares, 10 journaux de terre. Le journal, c'est ce qu'on cultive, ce qu'on peut labourer en une journée. Donc 10 journaux, ça fait à peu près 5 hectares. Et puis après, il y avait le travail pour le seigneur sur la réserve, et puis un certain nombre de corvées, l'empierrement des chemins, curer les douves, abattre les arbres, etc. Et très rapidement, les seigneurs se sont rendus compte que ce n'était pas rentable, en fait. Et donc, ils ont monnayé. Ils ont dit, bon, écoutez, on vous laisse des corvées. Petit à petit, ils ont monnayé la liberté, moyennant donc le versement de taxes, d'impôts, en libérant petit à petit les paysans. Et donc, à la fin du Moyen-Âge, il n'y a quasiment plus de serfs. Il reste encore quelques statuts un peu dégradés, sur les terres d'abbaye en particulier.
On va y revenir sur la campagne, sur
les terres d'abbaye, abbaye de Daoulas, abbaye de Landévennec, abbaye du Relais, etc., pour prendre celles qui sont dans le Finistère. Là. Donc là, on a des paysans motiers, par exemple, ou des Kévésiers et Termans. Ouais. C'est assez proche du servage, mais c'est plus du servage. Et quand on étudie les textes, on rend compte, en fait, qu'ils sont surtout contraints à plus de taxes, mais question liberté, les choses ont changé.
Donc c'est ça en fait le contrat entre guillemets, c'est que le paysan travaille la terre, il en garde une partie pour lui, il en donne une partie au seigneur, enfin au pouvoir en place.
Voilà, tout à fait, et en échange de la protection. Parce que dans le monde médiéval, on ne peut survivre que si on est protégé. Protégé par un clan familial, protégé par un statut de bourgeois, de clerc, ou protégé par un seigneur.
Mais comment ça se structure, justement? J'imagine qu'au départ, après justement la chute de l'Empire romain, c'est plutôt des fermes isolées. Fin, et comment est-ce que petit à petit, ça se met en place, qu'on appelle la féodalité, en fait
C'est compliqué parce qu'on est très mal renseigné déjà sur le passage de l'Empire romain à la Bretagne. C'est-à-dire que les Bretons arrivent et viennent un peu bousculer, donc ils arrivent de l'île de Bretagne, ils viennent un peu bousculer les structures. Et c'est une période par laquelle on a peu de textes et peu de traces archéologiques. Donc on est assez mal renseigné, on commence à mieux comprendre les choses à partir du 9e, 10e siècle. Avant, c'est un peu opaque, on a un monde rural avec des paysans qui cultivent la terre pour des nobles, terme est anachronique, des supérieurs hiérarchiques,
c'est ça.
On va dire, c'est compliqué. Et puis, en échange donc, de la protection, ils donnent en effet une partie de leur production. Et puis, là encore, les choses changent, parce qu'à partir de l'an 1000, le grand commerce international recommence. Et donc là, d'un coup, on voit les choses changer. Les aspirations ne sont plus les mêmes. Les aristocrates veulent des châteaux de pierre, là où avant, des cabanes en bois leur suffisaient. Ils veulent des tissus, ils veulent éventuellement des œuvres d'art, ils veulent du vin, ils veulent des épices. Et donc, petit à petit, les choses évoluent, parce que les seigneurs commencent à exporter, les marchands commencent à exporter, à importer. Donc, petit à petit, la société évolue vers quelque chose qui ressemble un peu à la nôtre, tout en restant quand même médiéval. Donc, il y a eu des évolutions subtiles sur tout le Moyen-Âge, mais qui sont pas indépendantes du tout du reste de ce qui se passe dans l'Occident et même au-delà.
Enfin, quel que soit le statut, en tout cas, du paysan qui a évolué, il est quasiment jamais propriétaire, enfin, à part de son lopin et encore...
Ça dépend.
Ah oui, intéressant.
Oui, ça dépend. Alors, à la fin du Moyen-Âge, il n'y a pas un paysan type, mais en réalité, il y a toute une hiérarchie paysanne. À la base de cette hiérarchie, on trouve les manouvriers, qui sont vraiment les brassiers, les manouvriers, qui sont des ouvriers agricoles, en fait, qui louent leurs bras, des prolétaires. Ils louent leurs bras, ils travaillent.
À la journée, tout ça.
Voilà, à la journée, au moment des grands coups de chaud, des foins, des moissons, des semailles, des labours, etc. Comme domestiques le reste du temps. Ensuite, on a un groupe, donc, inutile de dire que chez ces manouvriers et brassiers, c'est la misère ou pas loin. Juste au-dessus, on a la grande masse des paysans plus ou moins libres, mais plus ou moins pauvres aussi, qui vivent sur une petite exploitation agricole. Ils cultivent leur jardin qui leur fournit des légumes, les poules pondent des œufs, etc. Et puis, pour le reste, des céréales, au rythme de l'assolement triennal, en effet.
Donc ça, c'est
on fait tourner les cultures sur trois ans.
Donc c'est quoi, blé
Voilà, c'est ça, c'est céréales d'hiver, céréales de printemps et jachère, pâture.
Et ça existe depuis longtemps. Enfin,
ça, c'est depuis qu'on cultive la terre.
Ah ouais,
voilà,
d'accord, très bien.
Soit sur deux ans, seulement biennal, soit sur trois ans. D'accord. En Bretagne, on dépasse pas ça.
D'accord.
En Flandre, par exemple,
on fait pas 4 ans ou 5
voilà,
ans.
Voilà, ils font des tournes sur 4 ou 5 ans, mais en Bretagne, c'est pas le cas.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'est un peu la norme, paysan pauvre. Alors, ces paysans pauvres, à la suite d'un accident, une année difficile, une maladie, la blessure du paysan, peuvent connaître la misère et dégringoler dans la hiérarchie sociale pour devenir brassier manouvrier. Et à l'inverse, à l'occasion d'une épidémie, un héritage, la récupération d'une deuxième ferme ou d'un bout de terre, là, peut les amener à grimper. Parce qu'en réalité, c'est ça qui se passe.
Donc il y a une petite propriété quand même.
Oui, il y a une petite propriété. Et puis les paysans peuvent être propriétaires d'une partie de leur terre, peuvent en acheter. Et même s'il y a toujours l'autorité éminente du seigneur, d'un point de vue pratique, ils peuvent quand même hériter. C'est la différence entre le paysan et le serf. En fait, le serf ne peut pas hériter, alors que le paysan peut hériter. Et donc, on voit petit à petit apparaître une classe de paysans, un groupe de paysans moyennement riches, voire riches. Et on les repère au fait qu'ils sont, ils possèdent par exemple un train de labour. C'est eux qui vont prêter le train de labour aux autres au moment des labours, enfin prêter ou louer d'ailleurs.
Le train, c'est l'appareil les animaux.
Voilà, c'est les animaux plus la charrue et voilà, c'est l'ensemble en fait.
D'accord.
Qui est en fer ou en partie en fer. Le fer coûtant très cher, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, ces paysans riches, souvent, vivent dans l'entourage du seigneur. C'est-à-dire que c'est vers eux que le seigneur va se tourner quand il a besoin d'avoir un conseil, d'avoir de l'aide, d'une façon ou d'une autre. Et donc, se crée une sorte de, pas d'intimité, mais enfin de relation, de proximité entre ces paysans riches.
C'est des notables
riches,
ruraux,
voilà,
quoi,
notables ruraux, et puis coq de village, et puis le seigneur. Et il se trouve que sur chaque seigneurie, seigneurie rurale par définition, à côté de chaque manoir ou de château, il y a forcément une métairie. Le métayer, c'est celui qui cultive la terre de la réserve, c'est-à-dire la terre qui appartient en propre aux nobles.
D'accord.
Et en breton, Arvelerie, qui est en général située juste à côté du manoir. Et le métayer est souvent le paysan le plus riche parce que c'est lui qui va pouvoir employer la main-d'œuvre nécessaire pour travailler les terres du seigneur. Et ce statut de métayer est passionnant parce qu'il est exempt d'impôts, pas certains impôts, à la fin du Moyen-Âge. Mmh. Quand on cultive les terres du seigneur, on ne paye pas l'impôt sur la terre, puisque la terre est noble, comme le noble, et donc exempt d'impôts. Et l'exemption d'impôts, c'est très intéressant financièrement déjà, parce que les autres payent, on en rêve un peu tous, de l'exemption d'impôts. Et surtout, avec un peu de jugeote, ça permet de petit à petit passer dans le groupe supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes pour savoir qui est noble ou pas noble. Les métayers ne payant pas d'impôts peuvent très bien dire, vous voyez, moi j'ai un élément de la noblesse qui est celui du fait que je ne paye pas d'impôts. Ils peuvent aussi dire, deuxième élément de la noblesse, je vis dans l'entourage du noble, je fréquente, l'expression c'est hanter, comme maison hanter et fréquenter la noblesse. Donc je ne paye pas d'impôts, je hante et fréquente la noblesse, j'ai un certain standing, forcément, paysans riches, certains standings. En général, la métairie est une belle maison en pierre, là où les autres vivent dans les maisons en bois. Alors après, il manque juste un élément qui est le service armé. Pour être noble, il faut assurer le service armé.
Ouais.
Voilà.
Bon.
Soit de son seigneur, soit de l'évêque, soit du comte, soit du duc de Bretagne. Et là, un coup de chance, quoi. Le seigneur part à la guerre, il lui manque un valet, il dit à son métayer, tiens, t'es jeune, tu sais monter à cheval, viens avec moi, une année, deux années, trois années, quatre années. Et 10 ans après, quand il y a une enquête, l'enquêteur dit, est-ce qu'il fréquente la noblesse? Oui. Est-ce qu'il paye l'impôt? Non. Est-ce qu'il est un standing à niveau de vie correct? Oui. Est-ce qu'il va au service armé? Oui.
Bon, bah
et
c'est
donc,
bon.
Ouais. Toc, il peut passer à la noblesse. Et là,
il n'est pas anobli, il n'y a pas de cérémonie ou quoi?
Non, ça se passe tout en douceur, passe tout discrètement. Et là, en général, contrairement à une idée qu'on peut se faire, c'est pas la noblesse qui se plaint, c'est le bon peuple qui dit, mais l'homme, là, le goff, qui est devenu du jour au lendemain le goff de Kersaliou ou le gall de Kerastel. Certes, maintenant, monsieur Spavan, mais avant, il était comme nous. Et puis, il cotisait quand même à d'autres impôts.
Ah.
À d'autres impôts.
Ah, oui.
Il paye peut-être pas de fouage parce qu'il est métayer, mais il en payait d'autres. Et maintenant, il n'en paye plus. Et donc, sa charge revient sur la communauté.
Ah oui,
toute
ça
la
peut être
communauté.
Quoi, par exemple? Enfin, je sais quoi, c'est le fourbana, enfin, l'accès
c'est
au four,
les, voilà, c'est
le sel
toutes les formes de taxes.
Sel, pas,
toutes les formes de taxes qui sont prélevées sur la population, soit en nature, soit en argent. Et donc, les contestations, elles viennent de là, en fait. Elles viennent de la base, quoi. C'est surtout sur le fouage que ça porte, parce que les métayers essayent à tout prix de faire oublier qu'ils payent le fouage, surtout ou partie de leurs biens. Et donc, c'est là que ça coince. En général, le duc considère que si l'homme sert à la guerre, c'est bon,
et, ouais, voilà.
et valide sa
bon
noblesse, et tant pis pour les paysans. Au pire, on allège un peu la pression sur la paroisse et on n'en parle plus. Donc, il y a des statuts différents, des possibilités de déclassement ou de reclassement. Enfin, c'est une population assez mobile. Et puis, les plus riches aussi, on sait que les plus riches servent les seigneurs en affermant un certain nombre d'impôts, de taxes, par exemple.
Ils récupèrent des impôts.
Voilà, et eux les récupèrent. Ouais, et en fait, ils avancent l'argent au chef, au seigneur, au duc, au comte, et puis eux se chargent de récupérer cet argent-là sur les populations, ce qui est forcément rentable, puisque le deal est très simple. Le système ne peut fonctionner que si celui qui a pris l'impôt en gagne un peu plus que ce qu'il rend.
Ouais.
Voilà.
Et la taille des seigneuries moyennes, c'est quoi? Enfin, pour se rendre compte. Enfin, en Bretagne, au moins.
Ça dépend.
Ça dépend, d'accord.
Alors, il y a des seigneuries immenses, comme ce qui appartient au duc de Bretagne, qui couvre entre le tiers et la moitié du duché, c'est énorme, considérable. Il y a des très très grosses seigneuries, les Rohan, par exemple, où tous le peu de nobles titrés, vicomte de Donge, vicomte de Rohan, seigneur d'Anceny, etc. Là, des gros seigneurs châtelains. Et puis ça va jusqu'à des seigneuries microscopiques. On sait par exemple qu'à Tolé, à la fin du Moyen-Âge, donc Tolé qui n'est pas la paroisse ni la plus riche ni la plus vaste du Finistère, il y a à peu près une quarantaine de familles nobles. Ce qui fait que chaque famille règne sur deux, trois familles de paysans. Donc c'est un peu la misère, ce qui amène les nobles à se mettre au service de l'évêque, du vicomte de Rohan ou du duc de Bretagne, voilà.
Puis on l'a dit, il y a une autre structuration, donc celle de l'église avec la paroisse, voire l'abbaye qui peut être un seigneur.
Voilà. Alors voilà, au Moyen-Âge, peut être seigneur une personne, mais peut être seigneur aussi une structure ou le représentant d'une structure comme un évêque. L'évêque est seigneur du réguerre. Et puis, en effet, les abbayes sont seigneurs aussi. Et puis, on a toutes sortes d'abbayes. On a des abbayes bénédictines, mais on a des ordres militaires, par exemple. On a des templiers, on a des hospitaliers qui, eux aussi, sont seigneurs. Ce ne sont pas les seigneurs les plus faciles. D'ailleurs, loin de là.
Et ils ont des terres aussi.
Voilà, ils ont des terres. Il y a entre 6 et 8, je crois qu'il y a 6 commanderies hospitalières et 8 commanderies templières en Moyen-Âge en Bretagne. Les templiers, les commanderies templières passant ensuite aux hospitaliers. Hein. Et par exemple, la Feuillée, à côté de Morlaix, est une grosse commanderie templière, puis hospitalière. Et donc ces seigneurs ecclésiastiques fonctionnent exactement comme les seigneurs laïcs, en étant en général plus rigoureux, plus durs pour leurs paysans. Il vaut mieux être sous la tutelle d'un seigneur laïque que d'un seigneur ecclésiastique.
Ah oui.
Et ce qui fédère la société, c'est pas tellement la seigneurie qui souvent est éclatée.
Ah.
Parce que par héritage, par démembrement, par acquisition, on peut être seigneur d'une parcelle de terre à l'Anvéoc, d'un bout de terre au Fou et d'un troisième morceau à Daoulas. Donc la seigneurie, et puis un paysan peut dépendre de 2, 3, 4 seigneurs.
Ah oui, c'est pas très pratique en effet.
C'est pas pratique, mais c'est assez classique.
D'accord.
À l'inverse, ce qui fédère le monde rural, c'est quand même la paroisse. C'est-à-dire que la population se retrouve le dimanche à la messe, s'y retrouve pour les grandes fêtes, qui sont nombreuses d'ailleurs.
Pardon,
pour les baptêmes, les mariages, les sépultures, les fêtes de quartier, les fêtes de saint patron du quartier, saint patron de la paroisse, saint patron du métier, etc. etc. Et donc c'est ça qui va organiser la population, c'est-à-dire la population paysanne, beaucoup plus que la seigneurie, prend la mesure de la paroisse et éventuellement de ces quartiers, ce qu'on appelle les trèves. Parce que quand les paroisses sont trop vastes, étaient trop vastes, elles ont cassé entre paroisse mère et paroisse fille, fillette, ce qu'on appelle les fillettes. Et donc une grosse paroisse peut avoir 1, 2, 3, 4, quelquefois 5 trèves. C'est le cas dans le Nord Finistère, par exemple. On a des grosses paroisses qui ont cassé. Donc les grandes cérémonies se passent à la paroisse mère, et puis des cérémonies de moindre envergure se passent dans les fillettes.
Mais outre les cérémonies, je suppose que c'est des réseaux de soutien sociaux, enfin d'entraide.
Oui.
Ou de...
Alors, il y a déjà tous les travaux en commun. Il y a un certain nombre d'espaces qui sont mis en commun pour le bien de la communauté. On sait par exemple qu'il y a un troupeau communal, il y a assez peu d'animaux domestiques, enfin de gros animaux domestiques, parce que la solement triennale ne permet pas de les nourrir en hiver. À partir du moment où vous avez un tiers du terrain qui est en blé, un tiers du terrain qui est en avoine ou en orge, et puis un tiers du terrain qui est en herbe, ça ne produit pas de foin. Donc le troupeau communal, et en général le troupeau, est très limité. Et ces troupeaux vivent essentiellement dans les bois et les friches.
Quand on dit troupeau, c'est troupeau de quoi alors?
Alors, c'est les quelques vaches qui vont servir à tirer, beaucoup plus qu'à produire du lait, à tirer les attelages, la charrue, les charrettes, etc. Et puis, à côté de ça, on va trouver quelques moutons, quelques animaux domestiques. Et donc, tout ce petit monde vit dans la forêt ou dans les...
Et les cochons aussi, je suppose.
Et un cochon par famille. Un cochon par famille.
Ça, c'est pas des communs, par contre.
Non, non. Et en ville et à la campagne. Alors, on imagine facilement le cochon à la campagne. Il faut imaginer qu'en ville... Chaque famille a son cochon, ce qui...
C'est un excellent éboueur.
Oui et non, parce qu'il éboue certainement, mais il produit aussi.
Oui, c'est
alors
ça.
Quand vous avez 10 000 habitants dans une ville, ça vous fait quand même aller entre 1500 et 2000 cochons. En matière de salubrité publique, on a
c'est
vu
clair,
mieux.
C'est sûr. Et alors, les cochons de la campagne déambulent comme ils veulent.
Campagne, ils sont à côté de la ferme. Mmh. Là, ils engraissent le courtil, le lurs, le jardin. Et le troupeau communal, lui, est dans les bois, gardé par le pot de saout, hein, qui est donc le garçon qui est employé à surveiller que les bêtes ne partent pas dans tous les sens.
Et donc, le troupeau communal, il profite, entre guillemets, à tout le monde, enfin, comment
voilà,
les
chacun,
gérer
voilà, chacun ouais. a sa bête, ses bêtes dans le troupeau communal, et puis les récupère, les rentre le soir dans l'étable, et puis le lendemain, ils pâturent soit à côté, soit avec les autres à côté de la maison, soit avec les autres dans les friches.
Et puis alors, il y a les matériaux, enfin les équipements qui sont communs, mais peut-être pas communaux, enfin le four par exemple, le moulin.
Oui, alors tout ça c'est seigneurial, c'est-à-dire que le seigneur, du fait de l'autorité, ce qu'on appelle le droit de ban, BAN, qui donne banal, du fait du droit de ban, possède un certain nombre de droits, en particulier l'obligation pour les paysans d'aller au moulin banal. Donc au moulin seigneurial, il n'y a pas de choix.
Et donc on paye une taxe, bien sûr.
À chaque fois.
Sinon, c'est pas drôle.
Ce qui donne d'ailleurs une réputation terrible, qui fait d'ailleurs une réputation terrible aux meuniers, qui sont haïs par les populations. Il y a le four banal. Même chose, on est obligé d'aller cuire son pain au four banal, on ne peut pas le cuire à la maison.
Ah, pourtant, c'est si simple de fabriquer son four, mais
oui,
bon.
Oui, mais non, ouais, mais non, non ça, c'est interdit, ouais. C'est pas très rentable. On a à Lambeur, par exemple, il y a un four ducal banal, on sait que ça ne rapporte pas grand-chose, pas grave. C'est à la fois vaguement rentable et surtout une marque d'autorité, de propriété. Et puis après, il y a des banalités plus curieuses. Alors, par exemple, le verra banal, le taureau banal. C'est-à-dire que quand on veut des petits cochons ou des petits veaux, eh bien, il faut aller envoyer la bête au taureau banal. Et donc, et là, on paye, bien sûr. Donc, c'est vraiment très, très bien organisé pour assurer la rentabilité de la seigneurie et la vie du seigneur. Et ça fonctionne manifestement assez bien. Sachant aussi, sans doute, que... Comme à toutes les époques, les paysans doivent être assez malins pour frauder en partie toutes ces structures.
Oui, bien sûr. Quelles sont les périodes où on a le mieux vécu en tant que paysan et
au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, alors pour plein de raisons, des raisons politico-militaires, c'est une période de paix, un long siècle de paix entre... La dernière agitation autour de l'arrivée au pouvoir de Pierre d'Orderieux, c'est les années 1220, et ça dure jusqu'en 1340. Donc là, il y a plus de 100 ans de paix relative, comme
jusqu'à
au Moyen-Âge.
Jusqu'à la peste, quoi, en fait,
voilà.
En gros.
Mais 100 ans de vie tout à fait correcte. Deuxième raison, les météorologies, enfin climatiques. C'est ce qu'on appelle le petit optimum médiéval. C'est une période où les étés sont chauds et secs, les hivers sont frais et humides. Condition idéale pour la production de céréales. Donc ça donne une production dont on sait qu'elle est soutenue. La population n'est pas encore trop nombreuse, même si à la fin du XIIIe, on commence à tangenter la surpopulation. Et puis une société qui a trouvé un équilibre, c'est-à-dire que la grande époque de la féodalité brutale aux alentours de l'an 1000 est un peu passée. Les seigneurs bourrins ont été bien corsetés par le pouvoir ducal, et on n'est pas encore entré dans la longue période de crise économique, crise démographique et crise militaire de la fin du Moyen Âge. Donc là, il y a quand même une période, ce qu'on appelle le beau XIIIe siècle, et qui est dans le Royaume de France comme en Bretagne une période vraiment qui a été sans doute plus facile. Et puis après, ça change.
Oui, c'est ça. Et ça se traduit par des édifices, des belles églises ou des choses comme ça.
Oui. On voit les premiers grands chantiers. Là, chantier, pour nous, on en voit encore... On en voit assez peu de traces. On voit surtout les cathédrales. C'est l'époque de reconstruction ou d'agrandissement de la plupart des cathédrales bretonnes, sauf Nantes, qui n'est reconstruite qu'au XVe siècle. En revanche, pour ce qui est des édifices religieux plus petits, souvent, les reconstructions postérieures ont fait plus ou moins disparaître ce qui avait pu être fait au XIIIe siècle. On n'est pas encore dans la période des enclos. Les enclos paroissiaux, ça démarre au XVe. Avec le retour de la richesse, d'ailleurs, à la seconde moitié du XVe siècle, quand une paix relative, là encore, et puis les grandes crises démographiques sont passées.
Et pendant les crises, est-ce qu'il y a, par exemple, les fameux brigands dont on a l'image dans les campagnes médiévales ? Est-ce qu'il y a des brigands dans les forêts bretonnes ?
Alors, il peut y avoir des brigands dans les forêts bretonnes. Il y a surtout... Alors, bon, des brigands, des voleurs, il y en a toujours
ça,
c'est classique. Il est certain que lors de la guerre de succession de Bretagne, donc milieu 14e, 1341-1364, on a surtout des soldats en liberté. Et des soldats qui sont très mal payés, donc qui vivent sur le pays. Et la situation est très difficile, c'est-à-dire que pour vivre ou survivre, ils rançonnent les alentours, que ce soit des soldats bretons pour Charles de Blois ou pour Jean de Montfort, ou des soldats français pour Montfort, ou des soldats anglais pour Blois. Des soldats anglais, excusez-moi. Des soldats anglais pour Montfort, et des soldats français pour Blois. Et donc là, il y a une vraie période d'insécurité. On sait qu'il faut des passeports pour circuler, il ne faut pas se tromper quand on est arrêté par des soldats, il ne faut pas se tromper de l'obédience. On a le célèbre épisode de Salin le Fou, qui vit tout seul dans sa forêt là, à côté de l'Esneva, en Folgoate, donc au milieu du XIVe siècle. Et puis, Folgoate, c'est le bois du fou, et c'est Salin le Fou. Et il tombe sur des soldats. Et les soldats lui demandent, mais pour qui es-tu, Blois ou Montfort? Et là, il a une idée géniale, il répond, je suis pour la Vierge Marie. Ce qui fait rire les soldats, qui le fouillent pour s'assurer qu'il n'est pas armé, puis qu'il le libère en se rendant compte qu'il est un peu guidé, limité. Mais là, il a eu la seule réponse qu'il pouvait avoir. Il avait une chance sur deux de lier ses amis.
On rigolait pas avec ça.
Non, pas trop. L'époque où les armes sortaient assez vite. Donc là, il y a une grosse période d'insécurité. Et puis pour le reste, ensuite, les choses sont relativement correctes. D'accord. Pour l'époque.
Bon, moi, je me rends compte qu'on pourrait se promener encore longtemps dans la campagne médiévale bretonne, mais c'est déjà la fin de l'émission. Alors, merci, Yves Coativet. On va retrouver la Société archéologique du Finistère et ses conférences et ses sorties la saison prochaine. Et en attendant, on peut réécouter, bien sûr, les émissions sur le site de Radio Évasion. Au revoir.
Au revoir.